Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech énergique pour vous réveiller le matin. C'est presque la radio du matin de Fun Radio et de Skyrock. C'est encore ça les radios pour les jeunes, Cédric ? Toi qui suis la jeunesse.
Salut à tous. Il m'arrive sous la pression de mes enfants de mettre Fun Radio le matin dans la voiture quand je les emmène à l'école. Alors, ça a le bénéfice de ne durer que 5 minutes. Mais les matinales à la radio, ça, ouais, Bruno paye tes factures, tout ça, oui, ça existe toujours.
D'accord. Mais c'est toujours Fun Radio et énergie et ce genre de trucs. Enfin, bon, je parle des jeunes, hein, après, il y a d'autres. Mais c'est marrant parce que c'est celle que j'écoutais quand moi j'étais jeune. Et du coup, ça m'amène cette réflexion de la permanence des ayants droit, pas des ayants droit, mais des incumbents. Comment on dit incumbents en français ?
Des gens qui sont là depuis longtemps.
C'est ça. Oui. Mais tu te rends compte, moi je suis plus tout jeune, ça fait quoi, 30 ans que Fun Radio et NRJ sont les maîtres de la radio jeunesse ? Bref. Enfin.
Ouais, c'est vrai. Non, mais tu sais, après, le problème, c'est que les gens vieillissent, donc ils ne restent pas sur Fun Radio et sur NRJ toute leur vie. Ils passent sur Europe 1, sur RTL2, sur. Mais les matinales, hein, c'est un truc quand même particulier en radio parce que c'est un vrai rendez-vous. Et accessoirement, pour de la radio, c'est quelque chose d'assez cher à faire parce que d'ordinaire, c'est des trucs, c'est des émissions d'équipe et tout ça.
Oui.
Donc voilà. Et la grosse richesse du truc, c'est qu'une fois que tu as pris le pli et pris l'habitude, bah, c'est ta matinale, quoi. Et c'est difficile d'en décrocher.
C'est ça. Exactement comme il est difficile de se décrocher du rendez-vous tech, surtout quand on a tellement d'énergie, quand ce matin de février 2021, bon, matin, midi, nous sommes le 9 février, c'est l'épisode 390, et avec tellement d'énergie, on vous fournit de la vitamine pour le corps et pour l'esprit grâce à notre revue de tout ce qui se passe dans la tech. Je suis Patrick Béja, il est Cédric Ingrand, et cette émission vous est apportée vraiment avec leurs petites mains par les patriotes qui soutiennent l'émission. Aujourd'hui, je voudrais remercier David, Christophe B, Gilmas, Peyo, Tim Onrahan, décidément, Reda Benami, Gaëtan Mathieu et le producteur Franck Matignon qui, de son auguste personne, produit spécifiquement le podcast aujourd'hui. C'est-à-dire que si tous les patriotes l'amènent avec leurs petites mains, lui, il l'assemble presque grâce à son financement qui est exceptionnel. Merci à Franck Matignon et à tous les patriotes qui vous permettent d'avoir cette émission qui vous réveille. Je dis ça, mais bon, en fait, vous l'écoutez quand vous voulez, hein, le podcast, c'est vous qui décidez. Donc, si vous voulez, ça peut vous réveiller. Il y a des gens qui écoutent le podcast pour s'endormir, figure-toi. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur...
C'est parce que, comme compliment, c'est moyen.
Oui, c'est ça. Il y en a qui écoutent sous la douche en même temps. Ça, c'est peut-être un meilleur compliment aussi.
Oui.
Bon, bref, quoi qu'il en soit, merci à tous les patriotes et merci à vous de nous écouter. On va vous parler aujourd'hui de pas mal de choses. Il y a Jeff Bezos qui quitte Amazon presque par surprise. On a des informations sur surtout le casque de réalité augmentée d'Apple qui a des caractéristiques assez intéressantes et surprenantes. On a aussi au niveau des voitures, des choses qui se sont passées chez Apple. Et puis, on va avoir un petit topo sur Clubhouse, l'invasion de la Chine par certaines sociétés de jeux vidéo, la pénurie de composants qui s'explique un petit peu et surtout qui ne va pas s'interrompre d'ici un bon moment. Et avant de se lancer, j'ai une question dans la chatroom. On me dit, mais Patrick, est-ce que tu peux poser la question à Cédric à propos de son podcast ? Les gens sur Twitch sont très actifs. Qu'est-ce qui se passe avec ton podcast ? C'est les doigts dans la prise ? Qu'est-ce que c'est ?
Oui, les doigts dans la prise. J'avais prévenu hein, depuis le début que c'était un hobby, un truc qu'on faisait le dimanche quand on avait le temps. Et c'est vrai que le temps manque ces jours derniers, ces semaines dernières. On a beaucoup de travail tous. Mais toutes mes excuses. Oui, on est au moins en retard d'un épisode, hein, ça, clairement. Et ça va pas s'arranger tout de suite parce que là, il y a des problèmes de planning qui sont liés aux vacances, etc. Donc, je ne sais pas. Alors, soit j'ai deux choix, soit je fais le prochain épisode tout seul dans ma cave. Ça, je peux faire, hein, je sais faire, j'en ai fait d'autres. Soit j'attends que mon camarade Thomas Degois redevienne disponible. Je sais pas. Voilà. Mais c'est dommage que vraiment, on a plein de trucs à raconter sur le prix des Tesla qui s'est effondré.
Écoute, je te propose deux choses. D'une part, on va pouvoir parler un petit peu de tout ça dans cet épisode-ci du Rendez-vous Tech, donc ça vous fera un petit peu pour vous faire patienter. L'autre chose, c'est une chose que je propose aux auditeurs des Doigts dans la Prise, c'est que s'ils veulent un podcast pour remplacer les Doigts dans la Prise, un podcast qui n'a absolument rien à voir, ils peuvent écouter Super Laser Punch, qui est un nouveau podcast que je viens de lancer où on décortique les épisodes de séries Marvel et notamment WandaVision avec mon ami Johan. Et on est complètement dans notre fanitude Marvel et c'est un vrai...
J'ai pas encore regardé, moi, WandaVision, c'est comment ?
Ah, c'est particulier, mais plus ça va, c'est bien, moi j'aime beaucoup, mais c'est vraiment particulier. Il faut avoir suivi quand même un petit peu les choses Marvel pour l'apprécier à son... le MCU, on va dire, pour l'apprécier à sa juste valeur, mais c'est quand même très original et très intéressant. Si t'as vu les films de Marvel, je pense que tu pourras l'apprécier. Et oui, ça vaut le coup, moi je trouve.
Bon, bah faut que j'aille regarder les films de Marvel alors.
Et si... Ah bon, d'accord. Bon, ok, c'est pas pour toi, du coup. Mais si vous appréciez un petit peu Marvel et le MCU, c'est vraiment un trip de folie. C'est merveilleux. On passe des super bons moments et on en parle dans Super Laser Punch. Donc, allez télécharger Super Laser Punch si vous êtes intéressé par la chose. Même si on n'est pas un gros fan, c'est génial, nous dirige dans la chatroom. Donc c'est vrai que je suis hésitant à le recommander aux gens qui sont pas très fans de Marvel, mais certains l'apprécient vraiment. Donc ça vaut le coup, c'est super bizarre, mais ça vaut le coup de tenter. Bref, on n'est pas là pour parler de Marvel, on est là pour parler de tech et de cette news, de cette information un petit peu surprenante qui est tombée la semaine dernière. Jeff Bezos quitte la présidence d'Amazon. Cédric, que s'est-il passé ? C'est la révolution, il a été jeté dehors par le board. Pourquoi part-il ? Et qui est Andy Jassy, son remplaçant ?
Alors, soyons très précis, hein, contrairement à ce que vient de dire Patrick, parce que c'était une blague, évidemment que Jeff Bezos n'a pas été jeté dehors d'Amazon par le board, par le conseil d'administration. Au contraire, mais évidemment, tu vois, il a quoi ? Il a 56, 50, il vient d'avoir 57 ans, si mes souvenirs sont bons. Et il est assis sur la plus grosse fortune du monde. En gros, je pense, mais je ne suis pas dans la tête de Jeff Bezos, qu'il arrive à un moment où il se dit « Qu'est-ce que je vais faire de plus ? Qu'est-ce que je vais faire de mieux ? Qu'est-ce que je vais faire qui va, je ne sais pas, doubler, tripler la taille d'Amazon dans les 5 ans à venir ?» Bon, c'est compliqué, tout ça a l'air un peu linéaire. Je pense qu'il a aussi envie de profiter un peu de la vie et il a les moyens de profiter de ce qu'il veut, en gros, dans l'ensemble. Mais pour autant, on ne peut pas dire qu'il quitte Amazon. C'est-à-dire que non, il quitte le poste de DG, enfin de CEO, pour devenir président exécutif. Il va garder les mains sur les manettes. C'est un peu comme quand en 2000, si mes souvenirs sont bons, Bill Gates avait quitté Microsoft, mais en gardant un poste très largement exécutif, genre président du conseil d'administration, etc., etc., et en laissant les rênes à Steve Ballmer. Là, c'est pareil, il laisse les rênes à quelqu'un que le grand public ne connaît pas, qui est Andy Jassy, mais que tous les gens de la tech connaissent bien, parce que c'est quand même lui qui a inventé AWS, Amazon Web Service, qui représente quoi aujourd'hui ? Je ne sais pas,
c'est quelque chose comme... C'est le plus gros morceau d'Amazon, mais ce n'est pas la majorité, mais c'est vraiment le plus gros morceau. Je ne veux pas dire pourcentage parce que je vais dire une bêtise.
Non, je les avais en tête, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais en revanche, c'est un truc... Enfin, c'est amusant parce que c'est un truc qui symbolise Amazon. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui disent « Ouais, Amazon, c'est des gens qui vendent des livres hein, » ont déjà 15 ans de retard sur l'histoire. C'est non seulement un magasin en ligne, évidemment, mais c'est d'abord une marketplace, c'est-à-dire qui vend et qui assure la logistique pour des vendeurs tiers. Et en gros, c'est surtout un géant de la logistique du début à la fin, c'est-à-dire qu'en gros, pourquoi AWS ? Tout simplement parce qu'ils avaient développé des systèmes très intéressants pour eux-mêmes et qu'ils se sont dit « mais oui, mais il y a de l'argent à faire juste en devenant fournisseur pour les autres ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils sont devenus le plus gros cloud du monde. Ils sont devenus troisième agence média, j'ai envie de dire, mondiale, troisième support média mondial. C'est intéressant parce qu'évidemment, parmi tous les patrons d'Amazon, il y en a beaucoup. Hein, on aurait pu imaginer qu'ils en prennent d'autres. Tiens, on m'a dit que je suis muté, mais comment ça ?
C'est corrigé déjà. J'ai pas expliqué aux gens. C'était de ma faute complètement.
Censure communiste.
j'utilise pour la première fois mon nouveau PC surpuissant pour streamer et pour enregistrer l'émission. Et du coup, il y a des petits réglages que j'avais pas bien fait. Donc là, c'est bon. Tu n'es plus muté. Tout va bien.
Donc, quelle partie de mon analyse fine as-tu
sur le podcast, c'est bon. Sur le podcast, c'est bon.
Ah, d'accord. Pas, okay, tout le monde l'entendra. Désolé pour nos amis qui nous suivent en live. Enfin, bref. Donc, le successeur au poste de CEO, c'est Andy Jassy, qui est donc le patron d'Amazon Web Services. Alors, je sais pas, il a une personnalité différente, mais ça, c'est normal parce que Jeff Bezos a une personnalité assez unique. Jassy a l'air moins. Comment dire Il a moins le syndrome du fondateur, c'est-à-dire quand même une sorte d'idée de la toute-puissance, ce qui est assez normal. Du coup, ça le rendrait un peu plus diplomate que Bezos. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer à partir de maintenant, sachant qu'évidemment, sur le fond, Amazon va rester Amazon, ne serait-ce que parce que, encore une fois, Jeff Bezos gardera la main au final sur l'essentiel de ce qui va s'y passer en termes de, on va dire, dans les grandes lignes stratégiques. Donc voilà.
Oui, c'est un petit peu, je crois que tu l'as très bien dit, et c'est ce que je pensais aussi, Jeff Bezos est en train de nous faire une Bill Gates, c'est pas immédiatement quitter le navire, et puis c'est important pour la continuité, je pense, pour la stabilité de la société et de l'action, de faire les choses de cette manière, mais oui, Jassy est plus qu'un habitué de la société, il y est depuis 24 ans, c'est le bras droit de Jeff Bezos, il a monté de ses mains experte Amazon Web Services, sachant que c'est un MBA, Jassy. Il fait partie de cette première vague de gestionnaires qui ont été engagés par Amazon quand ils commençaient à devenir vraiment importants. Mais ce n'est pas un techos. Mais par contre, il réussit parfaitement bien à travailler avec les techniciens. C'est un petit peu celui que tout le monde aime, Jassy, et qui était la suite logique à Bezos. Il y a quand même deux ou trois petites choses qu'on peut dire c'est pas des bémols, mais enfin qu'on peut remarquer. De plus en plus, les sociétés de la tech sont sous le feu des projecteurs et sous le microscope des politiques. Et du coup, Bezos, il se barre un petit peu au meilleur moment pour lui. Il a monté la société de manière totalement invraisemblable. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir à quel point, quand il a lancé la société, il y avait une intention stratégique de chercher un business qui était disruptable par le net. Et il parlait beaucoup du fait qu'il y a tellement de livres dans le monde qu'il est impossible. C'est le domaine dans lequel il est le plus impossible d'avoir tout l'inventaire dans un magasin. Donc sur le web, c'est beaucoup plus logique. Il y a quelque chose comme à l'époque, hein, en 97, il y avait 3 millions de livres dans le monde, ce qui était du coup forcément impossible à avoir dans un magasin, encore plus que toutes les autres formes de médias. Et aujourd'hui, c'est très, très différent. Il y a beaucoup plus de tout. Mais déjà, à l'époque, il avait cette vision stratégique de quel business on peut disrupter. Il était là pour faire de l'argent et pour monter des business. Et il a clairement réussi avec de très nombreux business dans lesquels Amazon est impliqué. Il commençait avec les livres, mais il avait une vision sur le futur aussi. Et il a su saisir les opportunités. Et maintenant, il part. Quand ce sera difficile d'avoir un meilleur bilan, et en plus de ça, les eaux commencent à se troubler peut-être, et donc il se dit « bon bah ok, je vais rester encore quelques années, à côté de ça je vais me consacrer à Blue Origin, sa société qui construit des vaisseaux spatiaux, enfin des choses pour aller dans l'espace », parce qu'il se dit il n'y a pas de raison que Elon Musk ait toute la gloire là-dedans, il y a des efforts philanthropiques, il a le Washington Post, enfin c'est vraiment…
C'est une retraite active quand même, dirons-nous, dans l'ensemble. Il a décidé de pas complètement se désengager. Moi, si j'étais juste patron du Washington Post, ça suffira à deux plein temps. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il a aussi, évidemment, t'as raison, le Earth Fund, le Blue Origin et le reste. Mais je pense aussi, et t'as raison, que ça arrive à un moment où, tu vois, il y a toutes les histoires d'antitrust, etc. Et il sait que En étant le patron, fondateur, première fortune mondiale, etc., de toute façon, il y a un petit côté punching ball, c'est-à-dire que, par exemple, à Washington, le Sénat et la Chambre des représentants ont toujours plaisir à convoquer les patrons de la tech pour leur taper dessus, parfois à juste raison, hein, totalement, mais ça a un côté de toute façon symbolique et punching ball. Là, tout à coup, forcément, les gens vont se dire « Bon, on fait venir le patron d'Amazon, c'est qui ?»« Ah bah, c'est Andy Jassy. » »« Ah bah, c'est moins drôle. » Ouais, du coup, voilà,
c'est moins ce genre de choses, en tout cas. Ouais.
Exactement.
Pour répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure, AWS, donc Amazon Web Services, représente 10% des revenus d'Amazon. Donc c'est 10% seulement, mais 52% de total operating income.
Voilà.
Donc vous avez maintenant
sa marge fort. Et ça d'ailleurs, c'est beaucoup, intéressant parce que. Dans la perspective des gens qui voudraient arriver à démembrer Amazon en plusieurs trucs, il y a la question de savoir est-ce qu'il faut séparer le site d'e-commerce de la marketplace de la pub. Bon, ça, c'est vraiment compliqué. En revanche, et je pense qu'ils en passeront par là, Amazon pourrait dire « Attendez, vous avez raison, nous sommes une société, on a trop de trucs intégrés, on se marche dessus. Je vous propose qu'on détache AWS ou qu'on en fasse sa propre société. Je pense que ça répondrait à la demande du marché. » Et là, tu vas voir le cours de l'action AWS détaché d'Amazon qui va exploser pour devenir potentiellement la plus grosse valorisation boursière au monde. Et du coup, en fait, ce serait une bonne affaire pour eux, au final, parce qu'ils en resteraient pour l'essentiel propriétaires.
Voilà donc pour Amazon. On peut difficilement en dire plus à ce stade sur Andy Jassy et son attitude. La chose que je noterais, parce que je suis également fan de jeux vidéo, c'est que suite au rapport qu'on avait entendu il y a une semaine sur les activités de développement de jeux d'Amazon, Andy Jassy a confirmé dans une lettre aux employés qu'ils étaient tout à fait sérieux dans leurs intentions de développement de jeux et donc ils n'allaient pas jeter l'éponge du tout. Ça fait un petit peu écho à ce qui s'est passé avec Google la semaine dernière également, donc c'est important à noter. On en reparlera dans le rendez-vous jeu d'ici quelques jours. Parlons un petit peu d'Apple. Et pour le coup, il y a deux domaines hyper intéressants à discuter sur Apple. Un domaine qui te parle beaucoup, puisque c'est celui des automobiles. On a eu des rumeurs depuis des jours et des semaines selon lesquelles Apple serait en train de travailler avec Kia, avec Hyundai. En partie par la voix de ces sociétés-là, qui disaient « Oh, on est en train de travailler avec Apple !» Et ils ont dû annoncer, il y a deux jours, que non, ils ne travaillent pas du tout avec Apple. On imagine qu'il y avait des discussions secrètes qui étaient en cours et que Apple a tiré les oreilles de certains d'entre eux. Et du coup,
tu peux le décrire comme ça, oui.
Voilà, et du coup, leur action a chuté, enfin, qui a chuté de 14%. C'est évidemment un truc, bon, je ne sais pas si c'est rigolo, mais c'est à noter. Par contre, on a maintenant des rumeurs selon lesquelles ils travailleraient soit avec General Motors, soit avec PSA.
PSA, ah oui.
Donc, et là... Bon, c'est des grosses rumeurs, hein, mais ça.
Oui, c'est ça. Et que la première génération de voitures serait une voiture sans conducteur et tout ça, mais ce qui
se concentrerait sur the last mile. Donc vraiment, ça serait une voiture sans conducteur, effectivement, électrique en 2024-2025. Ils voudraient en produire 100 000 dans la première année, mais vraiment le last mile, ça veut dire c'est pas pour faire de la route, hein, c'est vraiment aller
de citadine, imagine. Voilà, Zoé sans volant. Mm. On a envie d'y croire, hein. Le problème évidemment c'est que les rumeurs partent un peu dans tous les sens sur à quoi, est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est un truc totalement autonome, qui va la faire et comment, mais en même temps ça commence à répondre à des questions qu'on se posait évidemment parce que on disait c'est très difficile d'imaginer être pour Apple devenir constructeur automobile sans gérer la partie de la construction proprement dite parce que c'est quand même là que la valeur ajoutée se trouve. C'est-à-dire, c'est dans le design industriel et même, j'ai envie de dire, dans le design industriel des lignes de production. C'est là qu'il y a beaucoup d'innovation. C'est là-dessus, par exemple, que Tesla a fait plein de trucs où ils ont vraiment fait la différence. Donc c'était compliqué de les voir dire « Ouais, alors on va assembler, on va prendre un pack batterie chez machin, on va prendre un moteur chez truc. » Et puis, c'était quand même difficile à imaginer. Alors après, quand tu me dis que c'est PSA qui va construire une Apple Car... Là, je me gratte la tête quand même. Pourquoi pas, hein, moi, je veux bien tout. Alors, c'est vrai, attention, parce qu'il y a quand même la fusion PSA-Fiat. Donc ça s'appelle plus PSA, ça s'appelle Stellantis, monsieur. Et donc c'est devenu un espèce d'énorme, énorme groupe qui a d'ailleurs du coup beaucoup de présence aux États-Unis. Bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, les rumeurs vont vraiment absolument dans tous les sens. Alors, est-ce que ça veut dire que l'essentiel des rumeurs sont fausses ou est-ce que ça veut dire qu'elles sont toutes vraies? C'est-à-dire que Apple va nous faire une gamme de voitures, certaines en Corée, certaines avec General Motors, d'autres avec PSA, etc. Bon, moi, j'ai envie de croire en tout. Maintenant, 2024, c'est demain. C'est vraiment, vraiment vite fait. Donc, super, on va voir. Mais et sur le fond, de toute façon, des gens qui te disent « Oui, je suis en discussion avec Apple », déjà, ils ont trop parlé dans l'ensemble. C'est pas, y a qu'Apple qui annonce des choses avec Apple.
Ouais, c'est sûr. Il est probable qu'Apple soit en train de discuter avec plusieurs constructeurs, parce que vraiment, ça commence à faire beaucoup de rumeurs. Il n'y a pas de fumée sans feu. On est à ce stade aujourd'hui. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant à noter aussi, c'est que généralement, le gagnant dans ce genre de partenariat entre Apple et quelqu'un, c'est Apple. C'est pas le quelqu'un. Donc,
Apple ne signerait pas. Enfin,
c'est ça. Ils imposent vraiment leur...
On le saura en termes industriels, parce qu'à un moment, t'es bien forcé de savoir de quelle ligne de production sort ta voiture. Mais je te promets qu'une fois l'accord signé et la production débutée, le vrai fabricant de la voiture, lui, il ne pipera mot, c'est-à-dire que tu ne l'entendras pas. C'est un truc que j'ai vécu un jour en Corée, il y a prescription, donc je peux en parler, dans une usine qui était déjà d'ailleurs une joint venture entre LG et Philips, où ils faisaient des écrans, des panneaux LCD pour les télés, les écrans, les moniteurs et le reste. Et c'était un truc absolument gigantesque, enfin bon, et c'était très compliqué à tourner parce qu'en gros, on ne te montrait rien. Mais rien. On disait, ouais, visite d'usine, venez, on peut tourner. Et t'arrivais, il y avait une espèce d'immense parallélépipède qui faisait la taille de deux conteneurs, tout en inox, super. Et c'était tout. Et tu disais, mais c'est quoi ça? Alors, ça, c'est une unité de production qui est à l'intérieur qui va, oui, mais là, il n'y a rien à voir. Oui. Donc, je m'étais un peu plein.
Oui, ce qui est sûr, c'est que.
C'était pour de la télé, donc c'était un peu frustrant. J'avais dit non, mais il faut me montrer des trucs, moi, parce que sinon, je sais pas pourquoi j'ai fait 10 000 km. Et finalement, on m'a montré des choses, dont un bout de la ligne de production. En gros, le truc qui est au bout, où les panneaux sortent et on les met en carton. Et là, on les envoie chez les marques et les fabricants qui les ont commandés. Et il y avait dedans des panneaux pour des moniteurs Apple. Et évidemment, on l'a tourné, parce que sinon, c'était pas drôle. Et je m'en souviens encore, parce que ça a été, paraît-il, un très mauvais souvenir pour les gens qui étaient avec nous, qui en parlent encore à ce jour, en disant « Ah oui, les Français qui... » Ouais, merci, hein. Trop bien. Et voilà, donc Apple, évidemment, a des sous-traitants, mais vous allez sur le site, il y a la liste des sous-traitants, mais ce n'est pas un truc de communication, c'est-à-dire qu'à aucun moment, ils vous disent « Ah, notre écran, il est fait avec Samsung, machin. » C'est
des trucs qu'on en sait,
en désossant les machines.
C'est ça, on en sait un petit peu ici et là, mais d'une manière générale, une fois que le produit est sorti des usines, c'est un produit Apple, c'est pas un produit de qui que ce soit d'autre. Y a un autre sujet hyper intéressant que je voulais évoquer, c'est celui du casque de réalité. Alors, c'est pas réalité augmentée ou réalité virtuelle, c'est réalité mixée. Donc, ça serait un casque qui devrait être annoncé. On ne sait pas si... Alors, il y a 2 millions de rumeurs sur le sujet. Je crois que je vais pas donner de choses précises parce que c'est vraiment trop confus. Et puis, c'est des choses qui sont mouvantes. Mais en gros, on aurait un casque de réalité mixée, donc entre augmenté et virtuel, donc qui pourrait afficher, devenir tout clair pour afficher ce que vous voyez, enfin pour ne pas rien afficher du tout en fait, pour vous laisser comme les HoloLens de Microsoft voir votre environnement.
Ouais, c'est la meilleure comparaison jusque-là, oui.
C'est ça, et qui pourrait donc fermer complètement l'image du casque, c'est-à-dire afficher sur l'écran du noir ou quelque chose pour vous enfermer un petit peu dedans, comme un casque de réalité virtuelle, plus ou moins. Les choses intéressantes, c'est que c'est un casque qui serait extrêmement cher, enfin, dans les environs du casque de Microsoft, autour de 3 000 dollars. Il aurait une douzaine de caméras, en fonction des modèles, une douzaine de caméras pour capter l'environnement et pouvoir vous situer là-dedans, et bien sûr, pour capter l'endroit où vous regardez avec les yeux pour mieux calculer, on appelle ça le foveated rendering, c'est-à-dire que là où vous regardez, eh bien, ça va être affiché avec une meilleure résolution, une définition plus fine par rapport à là où vous ne regardez pas directement. Et il y aurait deux écrans 8K, sur, donc un pour chaque œil, deux écrans 8K pour avoir vraiment une impression de finesse qui soit assimilable à celle de la réalité, quoi. Qu'on ne voit pas qu'on est en train de regarder un écran. Et donc, ça ferait de la réalité virtuelle possiblement, mais surtout de la réalité augmentée. Il semble que leur focus soit dans cette direction. Donc, il serait annoncé bientôt et il sortirait 2023-2024 et tout ça est complètement en mouvement. Donc, la chose à retenir surtout, c'est que leur prototype aujourd'hui, c'est une douzaine de caméras, deux écrans 8K et un prix qui serait autour de 3 000 euros pour un casque entièrement autonome, donc qui n'est pas connecté au téléphone, contrairement à ce qui avait été imaginé au départ. Est-ce que c'est un truc qui pourrait qui te semblerait intéressant, Cédric? Est-ce que
pas à 3 000 euros. C'est-à-dire que la question, ça pose la question des applications. Alors, est-ce que c'est juste que 3 000 euros serait le prix du kit de développement, par exemple, au début? On l'avait vu avec les Google Glass, par exemple. Les premières étaient à 1 500 $, mais c'était pour les développeurs. Parce que après, quand tu arrives sur le marché, qui va payer ? Il y a des gens qui vont payer 3 000 $ pour un casque de réalité mixte. Ça, oui, bien sûr, mais uniquement dans le monde professionnel. Là, il n'y a pas le bridge est tel en termes de prix. C'est-à-dire que c'est pas juste est-ce que ça va se vendre mieux si c'est 400 euros ou 600 euros. C'est à 3 000 €. C'est clairement dans un truc, il y en aura un dans l'Apple Store et juste pour la démo, c'est-à-dire que c'est pas, ils vont pas en vendre des wagons, tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce que c'est juste le premier, ou est-ce qu'ils sont en train de tester le marché en lâchant des prix fantaisistes? Après, ça a pas l'air fantaisiste par rapport aux specs, parce que les specs sont quand même là pour le coup très très haut, très très haut de gamme.
Ouais, du coup, voilà, est-ce que ça change vraiment l'interaction qu'on peut avoir avec le casque?
Ou est-ce qu'on est juste face à, j'ai envie de dire, la version vraiment professionnelle, mais modèle Mac Pro, tu vois, d'un truc qui aura une déclinaison plus grand public, genre Mac Mini.
Ouais, il me semble à peu près certain que Apple pourrait commencer avec ça et ensuite décliner la chose en modèle un petit peu plus abordable, voire beaucoup plus abordable. Ils semblent prendre leur temps pour cette technologie. Et je pense que même ça, les informations qu'on a maintenant, ça reste des trucs hautement hypothétiques, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible qu'ils ne le sortent pas immédiatement. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que ça a l'air d'être vraiment... Les voitures et le casque de réalité mixé ont l'air d'être les domaines qu'ils explorent pour continuer leur développement, leur croissance. Et ça a l'air d'être vraiment ces deux... ces deux domaines de recherche qui sont en train de pousser, ça pose quand même la question pour celui du casque, de l'application, parce que ça a beau être au niveau matériel quelque chose d'intrigant, je ne vais pas dire d'alléchant parce que vraiment c'est tellement du vent qu'on ne sait pas trop, mais au niveau de l'application, à quoi est-ce que ça servirait? On n'a pas la réponse aujourd'hui avec les casques existants, et le fait que ça soit... plus fidèle dans l'affichage de votre environnement ou dans l'affichage de surimpression d'éléments d'interface en surimpression ou même que ça fasse de la réalité virtuelle avec plus de finesse, ça ne change pas fondamentalement les applications. Et jusqu'à maintenant, elles ne sont pas très convaincantes dans ces...
Non, mais surtout, il faut se mettre dans les chaussures de celui, par exemple, qui allait pitcher ce projet à Tim Cook, par exemple. Et voilà, tu vois, tu rentres dans le bureau de Tim, il y a 2-3 personnes dans le truc, et tu dis, voilà, on a un super projet sur la VR. Ah, très bien, tell me more. Alors, on va faire un truc, il va être incroyable en termes de spec, il va déchirer tout, et on va peut-être espérer concurrencer HoloLens. Et là, le silence se fait quand même dans le bureau, genre, Holo quoi ? Ah oui, le truc de chez... Oui, mais et c'est tout ? Ouais, c'est tout. Mais ça va être très, très cher. Ouais, et donc ça peut pas être que ça. Enfin, en tout cas, c'est l'espoir que j'ai, c'est que ça peut pas être que ça. Alors, bon, de fait, j'ai un peu une marotte sur la voiture électrique et autonome, mais j'ai quand même plus d'espoir de ce côté-là en termes de relais de business, si tu veux, massif et de soutien à la valeur d'Apple que face à un casque d'ARVR à 3 000 $. Là, soit on ne connaît qu'un, soit c'est juste une pièce d'un puzzle qui nous reste encore à découvrir. Soit, on va dire que c'est ça. On a qu'une pièce du puzzle. On comprendra le reste plus tard et ça nous sera expliqué en détail. T'inquiète pas, les yeux dans les yeux. Et it will be the best ARVR headset ever.
Ce que je dirais quand même qu'il faut noter, c'est que on ne compte plus le nombre de fois qu'Apple est arrivé sur un marché existant avec des matériels ou des produits intéressants mais pas hyper convaincants et les a rendus vraiment intéressants pour le grand public. Si on parle par exemple des lecteurs de MP3, on était il y a au milieu des années 90, début des années 2000, ils existaient déjà. On se souvient avec émotion chacun de nos lecteurs de MP3, de nos Arcos, de nos Panasonic, oui. De nos Rio exactement. Bon, des gens vont te dire « Ah, mais ça existait déjà et Apple n'a fait que copier ». Oui, mais non. Apple a perfectionné la technologie et surtout l'interface et l'accès au public et l'a rendu, en a fait les succès qu'on sait. Alors, je prends l'exemple des lecteurs de MP3, évidemment, mais il y a aussi les tablettes, les smartphones, enfin, on ne les compte plus. Donc, il ne faut pas non plus partir du principe que parce que la technologie n'est pas ultra convaincante aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut réussir, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir, Dieu sait qu'ils ont aussi eu des casseroles, mais s'il y a quelqu'un qui peut réussir, je dirais que c'est plus Apple que quelqu'un d'autre. Donc, restons prudents dans le sarcasme.
Le problème, c'est qu'ils arrivent sur un marché qui n'existe pas. Enfin, il n'existe toujours pas. Le marché de la VR grand public, il y a des choses sur PlayStation, il y a Oculus, il y a tout ça, mais... Je veux dire, en termes d'adoption, on reste quand même dans l'épiphénomène, surtout pour une boîte qui a fait l'iPhone. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas du tout dans les mêmes ratios d'adoption et on n'a pas encore vu... on l'attend, hein, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on l'attend, la killer app, le truc qui fait que tout à coup, ah, attends, mais c'est impensable, tu ne l'as pas, mais comment tu fais? Tu vois ce que je veux dire? Et personne ne l'a trouvé, et ce n'est pas faute d'avoir investi, que ce soit du côté d'Oculus, du côté de Samsung, du côté... Enfin, plein de gens. Donc voilà, ça reste un épiphénomène, ça a des usages qui sont bien réels, dans le monde professionnel, beaucoup, je le vois maintenant, mais ça reste, voilà, c'est un petit truc. C'est du domaine de. C'est comme si Apple te disait, je pense qu'il est temps de repenser l'imprimante. Non, mais c'est vrai.
Ah, là, qui sait ? Non, mais c'est vrai, oui, peut-être.
Ils en ont fait, hein, c'est pas.
Mais oui, je me demande si le fait qu'il y ait une définition aussi fine, avec deux écrans 8K, c'est quand même pas rien, le fait qu'il y ait ces 12 caméras et un LiDAR, évidemment, qui va faire que ton interface va coller au poil de millimètre près à la réalité, donc ça va vraiment avoir une relation différente à ce genre d'interaction informatique, peut-être que ça pourrait donner des usages intéressants, mais ne serait-ce que, comme le fait remarquer la chatroom, le fait que le casque avec ses gros écrans, ses milliers de caméras qui est posé sur la tête, bah, on va pas aller chercher, faire nos courses avec. C'est le genre de truc qui est quand même un petit peu encombrant et avec lequel, enfin, c'est pire qu'être un glass hole avec les Google Glass. C'est vraiment pas pratique du tout.
Non, mais là,
tout,
c'est pas un truc. Ça peut pas être quelque chose avec lequel tu vas te promener dans la rue. Faut être sérieux.
C'est ça. Donc, on est vraiment dans
un. Il reste un problème indépassable, c'est que même si pour le prix, il fait la vaisselle et il trie tes chaussettes, c'est 3 000 $, donc c'est pas possible.
Bon, on verra donc dans les années à venir ce que ça donnera. Bah écoutez, c'est le moment de faire une petite pause pour parler de Patreon. Est-ce que vous savez ce qu'est Patreon ? Je vous le demande et j'imagine que vous le savez, c'est le meilleur moyen de soutenir le rendez-vous tech. Et vous savez, j'ai une relation assez particulière avec les gens qui soutiennent sur Patreon. C'est si on me demande qui sont mes personnes préférées dans le monde, au monde entier. Alors, bon, évidemment, il y a ma famille. Il y a ensuite mes amis, des gens qui me sont chers comme Cédric Ingrand qui partage ses émissions avec moi depuis longtemps. Et puis après, il y a quand même 6 à 7 milliards de personnes dans le monde. Hormis ce petit cercle fermé de gens qui me sont les plus proches et mes personnes préférées, eh ben mes personnes préférées au monde, c'est les patriotes. C'est les gens qui soutiennent l'émission. Et je dis ça, c'est même pas un artifice. C'est vrai, c'est ceux qui permettent à cette émission d'exister. C'est ceux qui permettent, qui me permettent de faire ce travail, qui est un vrai travail, de manière sérieuse et assidue. Et je suspecte que, pour eux aussi, je suis une personne qui est assez proche. C'est quelqu'un qui me faisait la remarque il y a quelques temps, il y a déjà un ou deux ans, qui me disait « Mais en fait, nous aussi, on a notre famille, nos amis. Mais après ça, la personne qui est plus proche, c'est une relation bizarre, les podcasts. C'est, on est tout le temps ensemble, toutes les semaines. On partage une heure et demie. On parle normalement. On n'est pas comme les gens à la télé ou à la radio, n'est-ce pas, messieurs et mesdames de la télé et de la radio, comme
c'est
Cédric. »
C'est pas de quoi tu parles.
Non, mais c'est vrai qu'on a... Nous, on se parle normalement et il n'y a pas le ton... de la radio. Je ne vais pas vous parler de cette manière. Et donc, on se sent proche. Et on a une relation particulière entre vous, la communauté, et nous, les podcasteurs. Et c'est très, très proche. Et on est vraiment proche, je trouve, quand on se rencontre dans les IRL, quand on pourra se recontenter, rencontrer en vrai. tu te souviens, à une époque, on pouvait... Eh bien, on se rencontre et on dit « Ah, salut, comment ça va ?» comme si on se connaissait depuis 10 ans. Bref.
Ah, tu m'as touché, là !
Tout ça pour dire qu'on a une relation particulière et elle est partagée, elle va dans les deux sens. Et bien sûr, elle existe avec tous ceux qui écoutent l'émission, mais en particulier avec ceux qui soutiennent l'émission. Moi, j'ai une vraie affection, une vraie tendresse qui n'est pas feinte du tout pour les gens qui font l'effort, parce que ce n'est pas rien, qui font l'effort de soutenir l'émission et d'ouvrir le portefeuille pour permettre à quelqu'un comme moi de faire son travail et de faire ce travail, et qui font le choix de soutenir un travail, une création qu'ils apprécient. Donc, j'espère que si vous appréciez suffisamment cette émission pour la soutenir, vous ressentez que j'ai, moi, un sentiment très profond pour vous et qui est sincère. Donc, voilà, c'était un petit mot d'amour que je voulais donner aux patriotes et j'espère que vous le comprenez. Je veux aussi noter tout de même que vous avez été nombreux à répondre à mon appel à mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée et je voudrais vous remercier.
C'est vachement important.
Ouais.
C'est très important.
Vraiment, des gens comme Pepso75, Skinetic, des gens comme Lutoxpunk, Alex Réunion, etc. Nathan Had, Archimad, enfin, il y en a eu vraiment plusieurs, donc merci à vous tous. N'hésitez pas à le faire encore si vous ne l'avez pas encore fait. Un commentaire et une note sur votre app de podcast, c'est hyper important. Et bien sûr, patreon.com/rdvtech si vous souhaitez soutenir l'émission. Et je le mentionne en passant, évidemment, vous avez aussi des bonus. Hein. C'est bien beau, tous ces beaux sentiments. Mais vous avez les émissions sans pub, les timecodes pour passer au moment que vous appréciez le plus, des accès au Discord si vous le souhaitez, etc. etc. Donc, patreon.com/rdvtech.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, Cédric, Clubhouse,
oui, monsieur.
Ça fait des semaines que j'en parle, avant que le zeitgeist ne se fasse dans les médias. Et Clubhouse, je vais rappeler rapidement, c'est une nouvelle application réseau social qui permet à n'importe qui d'ouvrir une salle de conversation où la personne va inviter plusieurs personnes qui vont pouvoir parler et plein de gens vont pouvoir écouter. Et ça peut faire des salles jusqu'à... En fait, c'est un petit peu du live streaming, mais uniquement audio, concentré sur le mobile, avec une interface qui fonctionne pour cette utilisation. Toutes les élites de la Silicon Valley sont dessus et se sont appropriées l'application. Et il y a une sorte de d'effervescence autour de cette application, comme on en voit de temps en temps. Est-ce que ça veut dire qu'elle est vraiment intéressante ou est-ce qu'il y a un buzz qui est un petit peu artificiel ? On ne sait pas encore très bien. En tout cas, il y a beaucoup de communautés qui sont très actives et elle commençait à être hyper active en Chine également, puisqu'elle est beaucoup plus difficile peut-être à modérer que d'autres réseaux sociaux habituels en écrit. Et bien là, c'était à l'oral et on attendait que la Chine la bloque et on se disait est-ce que ça va prendre 3 jours ou 4 jours. Bah
et
ça a pris 2 jours.
Voilà.
Ça s'est fait hier. Bah,
ça n'a pas pris 2 jours parce que Clubhouse non, ça existe depuis, moi ça fait plus d'un an que j'en entends parler. Mais c'est vrai, mais c'est aussi de là que vient le buzz, c'est que pour l'instant c'est un truc très microcosmique, hein. C'est très Silicon Valley, c'est très voilà. Je me souviens, les premiers trucs dont j'ai entendu, c'était, je sais pas, par exemple, des investisseurs, des capital risqueurs, des VC, comme on dit, qui avaient leur petit salon sur Clubhouse où ils parlaient entre eux. Bref, ça, c'était il y a un an. Ça continue, c'est très... même quand on voit maintenant les Français qui sont sur Clubhouse, c'est très start-up. C'est lié au fait que l'accès se fait uniquement sur invitation. Une fois que tu es dedans, tu peux inviter 5 personnes ou 6, etc. Donc ça, j'ai envie de dire, ça grandit rapidement là, mais par capillarité, alors avec des petits boosters, comme tout à coup quand Elon Musk te dit « Ah oui, je serai sur Clubhouse ce soir !» et où là, je pense que le système a touché un peu aux limites techniques de ce qu'ils savaient faire.
Ils avaient trois salles, parce qu'elles sont limitées à 5000 personnes, ils ont dû en ouvrir 3 différentes.
Oui, il y a des gens qui reprenaient le signal pour le réémettre dans leur salle à eux, enfin bon. Et donc, moi, je trouve ça chouette parce que l'audio, on ne va pas se l'apprendre nous, hein, est quand même un outil extrêmement puissant. Et ça fonctionne de partout tant que tu as un smartphone. Enfin, il n'y a pas de. Les obstacles techniques n'existent pas. Tu peux soit parler, soit juste écouter. Enfin, c'est intéressant parce que ça redéfinit un peu ce que pourrait être la radio où à n'importe quel moment, tu peux prendre un de tes auditeurs et le faire rentrer dans le cercle de ceux qui ont le droit de parler.
Ouais. Il y a un élément d'interface qui dit un bouton, on appuie, ça dit lever la main et on peut faire rentrer la personne dans le.
Voilà.
Mais toi, tu semblais me dire que tu n'étais pas vraiment convaincu par Clubhouse face à cet océan d'enthousiasme.
Pour l'instant, mais c'est lié à la façon dont ça s'est développé. Pour l'instant, pour moi, ça reste un truc un peu microcosmique. C'est-à-dire, voilà, c'est beaucoup de gens entre eux. Tu vois, regarde par exemple, c'est simple, hein, les photos, les icônes des photos des gens. Tu vois bien que les anciennes, ça doit être leur photo LinkedIn. Donc on a l'impression que c'est un peu une extension audio de LinkedIn pour l'instant, mais c'est un chouette outil. Maintenant, reste à voir ce que les gens vont en faire. J'ai pas bien compris quel était le modèle économique non plus, je dois dire, parce que
pour le moment,
pas faire, comme Spotify Free du genre « nous arrêtons cette conversation pour insérer 2 spots de pub ». Ça, je pense pas que ça va fonctionner, ça. On va mettre des bannières. Non, ça paraît curieux. Ce que tu leur donnes comme données est proche de pas grand-chose. Donc voilà, il faudra un moment quand même qu'ils trouvent un modèle économique. Ça posera peut-être des questions. Peut-être que ce qu'ils trouveront, tout à coup, les utilisateurs diront « Ah ben non, c'était mieux avant ». Bah oui, je comprends, c'était gratuit. donc voilà, c'est un chouette outil. Maintenant, ça a un petit côté, pour les gens qui étaient là il y a 10 ans, souviens-toi de Google Wave.
un petit peu, ouais. Et ça pouvait
même pas
tout
un produit,
fait...
qui était juste une techno pour dire regardez, on fait des trucs super et synchro et machin. Et là, tout à coup, c'était t'as pas Google Wave. Enfin, bon, bref.
C'est tellement idéal pour la pandémie qu'il est tout à fait possible que ça ne soit plus du tout. Enfin, en même temps, je suis pas tout à fait d'accord. J'ai entendu ce commentaire.
Ouais, non. Mais... t'es pas d'accord avec toi-même, c'est assez terrible.
Ça m'arrive de temps en temps. C'est vrai que c'est idéal pour la pandémie quand les gens sont enfermés chez eux, mais ça connecte des gens qui sont pas juste des voisins qui pourraient se voir de toute façon. Donc, et puis il y a toutes ces communautés. C'est beaucoup de communautés financières. Il y a beaucoup de trucs sur les bitcoins. Et comme on le disait la dernière fois, il y a beaucoup de communautés noire américaine qui ont complètement investi la plateforme. Donc peut-être que ça crée un espace pour certaines personnes qui sont peut-être pas aussi entendues ailleurs, je sais pas. Mais bon, ça pourrait vraiment aller dans les deux sens, on va dire.
Alors tu sais ce qui va se passer maintenant ?
Dis-moi.
Ce qui va se passer maintenant, c'est que là, ce matin ou demain, Mark Zuckerberg va avoir un petit comex, un truc comme ça, en disant mais pourquoi nous on n'a pas fait ça ?
Ah mais c'est certain. Tu sais qu'il était sur Clubhouse il y a 3 jours, il a fait une apparition surprise, et c'est garanti qu'ils vont faire un truc comme ça. Mais Twitter a déjà lancé Spaces en bêta, qui est exactement pareil aussi.
Mais c'est intéressant parce que tu peux y penser, pour l'instant c'est un truc à part, mais c'est vrai que tout à coup comme fonction de Twitter par exemple, ce serait intéressant, très clairement. Tout à coup que tu puisses d'un clic inviter tous tes followers dans une chatroom, etc. Tu vois, là tout à coup c'est là que tu diffuserais le live du rendez-vous tech par exemple. donc ça a plein de vertus, mais reste à voir comment ils peuvent se développer dans leur coin avec un modèle économique que j'ai pas encore compris, ou comment d'autres vont essayer de les copier. Alors là, pour Facebook c'est presque plié d'avance. Ça va devenir une nouvelle fonction d'Insta par exemple, tiens, ou de WhatsApp.
On parlait de Twitter et ils sont en train de considérer, pas pour cette année, mais pour l'année prochaine peut-être, ils sont en train de faire des tests sur des moyens de monétiser la plateforme pour ne plus dépendre que de la publicité et de l'analyse des données. Des moyens de faire payer les gens pour certaines choses. Alors pourquoi ? Il y a un gros point d'interrogation. Peut-être pouvoir donner de l'argent pour du contenu exclusif de la part des utilisateurs, peut-être des versions pro de Twitter avec des fonctions améliorées de TweetDeck, ce genre de choses, mais ils y réfléchissent, quoi. Bref, on verra où va Clubhouse, mais c'est clairement la grosse app suivante. Steam est disponible.
Dans la chatroom, ils disent c'est le prochain outil des fans de QAnon. Non, ça, pour ça, ils ont Twitch déjà.
Et d'ailleurs, je vais en parler dans quelques minutes. Vraiment. Pas que Twitch, maintenant ça va. Bon, bref, on va en parler. Mais d'ailleurs, on dit également dans la chatroom la chose qu'on entend à peu près à chaque fois qu'on parle de Clubhouse, c'est à deux doigts d'inventer Discord. Effectivement, il y a un petit peu de ça, mais là où c'est différent, c'est que, comme on le disait la semaine dernière, il y a l'interface qui est adaptée au mobile, qui est hyper simplifiée et qui est différente et qui, à mon sens, change beaucoup le rapport à l'app et son utilisation. L'interface fait énormément. Ouais. On en parle à chaque fois, donc je pense que vous connaissez le sujet. Steam est disponible officiellement en Chine. La PlayStation 5 devrait être lancée en Chine au printemps. Les joueurs, bien sûr, sont très actifs en Chine. Les joueurs chinois sont très actifs. C'est intéressant, cette histoire de Steam, parce que Steam existe en version internationale qu'on connaît depuis longtemps en Chine aussi. Le fait qu'il se lance officiellement en Chine en version de Chine, je ne dis pas chinoise, mais en version de Chine, ils ont une quarantaine de titres seulement encore à ce stade, mais ça pourrait tout à fait donner au gouvernement chinois un moyen simple de bloquer la version internationale et de n'autoriser que la version chinoise qui, elle, est beaucoup plus contrôlée. Mais bon, que ce soit pour Sony ou pour Valve, le milliard d'utilisateurs chinois, je pense, c'est de joueurs chinois est alléchant. Et puisqu'on parle de Chine, j'ai lu un rapport hyper intéressant sur Bloomberg qui était très détaillé sur les raisons pour lesquelles on a des shortages, j'en perds mon français, des ruptures de stock, des pénuries pour les composants informatiques. Il y a deux éléments qui m'ont sauté aux yeux. D'une part, il y a le fait que, évidemment, la pandémie a mené à un ralentissement des commandes en début d'année dernière et puis une accélération exponentielle en fin d'année dernière. Et donc, tout le monde veut des composants. Mais il y a aussi deux grosses sociétés en particulier, toutes, mais deux quand même, Huawei, qui s'est mis déjà en début d'année dernière à accumuler autant de composantes possibles en raison de leur combat commercial avec les États-Unis, enfin du combat commercial entre la Chine et les États-Unis. On le sait, ils ont de peur de se faire bannir, ils ont accumulé énormément de choses. Et Apple, en prévision justement des pénuries, ils ont acheté des tonnes et des tonnes de composants et ils les ont stockés. Et du coup, il y a moins de choses qui sont disponibles pour les autres industries, en particulier pour l'industrie automobile, qui a été très peu clairvoyante à ce niveau et qui a des gros problèmes d'approvisionnement aujourd'hui, mais ça risque de ne pas s'arrêter là. L'industrie de l'aviation, par exemple, risque d'avoir des problèmes, etc., etc., et les prix montent et montent. Il y a un vrai problème d'approvisionnement et il n'y a que quelques fournisseurs, on le sait. Donc, les pénuries risquent de ne pas se terminer avant un bon moment, quoi.
Bah, c'est-à-dire que forcément, la pandémie a mis un coup d'arrêt à pas mal de productions et c'est un retard qui est difficile à reprendre comme ça. D'abord parce qu'on est, c'est vrai, sur une année particulière, parce qu'on voit, il y a une grosse demande sur l'iPhone avec l'arrivée de la 5G. Il se passe plein de trucs. Il y a la PS5 et le reste. Et du coup, tu rattrapes pas même quelques semaines ou quelques mois de production comme ça, avec en plus des événements exogènes. Comme Huawei qui tout à coup est en panique en se disant est-ce qu'on va arriver à continuer à fabriquer des smartphones et c'est pas gagné.
D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais leur Harmony OS qui était censé être un OS complètement différent, c'est vraiment Android.
Mais... Il part d'Android, oui, bien sûr, il est pas repris de zéro, mais c'est un peu normal parce que.
Non, mais ce qui était marrant, c'est qu'il disait notre OS souverain, Harmony OS, qui sera développé. Bah, tu vois, ils avaient fait beaucoup
même
de
en France. Il y a des gens en France qui réclamaient que la France développe son OS souverain, et quand même dans l'ensemble, qui étaient en train de dire non, mais attendez, on va partir d'Android pour faire le nôtre. On va pas repartir de zéro. Je parle là du Android open source, évidemment.
Bref, voilà pour les pénuries. Et puis à propos, quand on parle de problématiques entre la Chine et les États-Unis, on pouvait se poser la question de savoir si la nouvelle administration américaine du président Biden allait changer d'attitude par rapport à la Chine, comparé à l'administration Trump. Et la première chose qu'on a entendue, c'est pas encore la secrétaire du commerce américaine, mais elle en est pas loin, c'est Gina Raimondo qui dit qu'il n'y a pas de raison de changer l'attitude face à Huawei, ZTE et les autres par rapport à cet ajout à la blacklist des sociétés avec lesquelles les sociétés américaines ne peuvent pas travailler. Donc voilà, si vous pensiez que ça allait se terminer, ça n'est pas le cas. Ceci dit, j'aimerais quand même applaudir Cédric qui, au plus fort du combat entre les États-Unis et la Chine, nous prédisait que le bannissement de TikTok ne se ferait pas. Et autant on peut discuter de la légitimité du combat avec Huawei, autant sur TikTok, c'était clairement... une affaire capricieuse. Et tu disais non, mais ça va pas se faire, ça y est, c'est terminé. Je crois que c'était en novembre déjà ou en octobre, et tu as eu raison parce que là plus personne ne parle de TikTok.
Non, c'est fini. Ils ont eu juste la stratégie, si tu veux, ils ont courbé les chines, voilà, en disant on ne bouge pas, personne ne bouge, on ne bouge pas une oreille. C'est comme quand tu es face à un grand prédateur, si tu ne bouges pas, il ne te voit pas. Et là, c'est pareil, c'est si on arrête de faire du bruit, peut-être qu'il oubliera qu'on est là. Et c'est exactement ce qui a fini par se passer, parce qu'en plus, c'était quand même terriblement compliqué. Il faut se souvenir, c'est ça, Trump voulait les forcer à se vendre à des Américains, enfin, ce qu'ils n'avaient absolument
aucun moment. Les forcer à se vendre et avoir au passage une commission pour le gouvernement. Enfin bon, bref, peu importe.
Ouais, c'est ça, en disant, en plus, vous allez nous filer du fric. Et donc, en face, les Chinois leur ont fait l'illusion du mouvement, tu vois, le mouvement immobile, genre, oui, regardez, nous sommes en train de... Et en fait, il ne se passait rien. Et en anglais, on dit « they were waiting it out », genre, ils attendaient que ça se passe, en gros, et en disant, bon, de toute façon, il ne va pas être réélu, enfin, on l'espère, et ils ont eu raison. Parce que voilà, je pense pas que là, personne ne va plus forcer TikTok à se démembrer, revendre, oui. Ça n'a pas de sens.
J'aimerais tout de même remercier et applaudir Gwil, qui est dans la chatroom et qui est venu écouter le rendez-vous tech alors qu'il vient d'avoir un enfant. Je pense que ça, tu vois, quand on parlait de la relation privilégiée qu'on a avec notre audience dans les podcasts, il y en a une preuve assez claire.
Oui, alors ce serait bien qu'ils s'inquiètent aussi de sa relation privilégiée à celui ou celle avec qui il ou elle a eu un enfant.
à propos de la relation entre Huawei et le reste du monde, la France a passé la loi anti-Huawei. Donc, à terme, les équipementiers devront se départir de leurs équipements Huawei, au moins en partie. Donc, ça continue dans cette direction. Bon, je voulais redire plus sur Huawei, mais on en a déjà tellement parlé. Il doit y avoir un truc, parce que quand même, tous les pays qui étaient un petit peu hésitants finissent par se dire, bon, au cas où, je me demande s'il n'y avait pas quelque chose de plus sérieux, peut-être, entre l'idée que c'était sérieux ou pas, la menace potentielle, qui est potentielle, bien sûr, de Huawei. Quand même, tout le monde a l'air d'être prudent, quoi. Bref.
Ouais, GameStop... Enfin, faut dire aussi qu'on a des champions locaux, c'est-à-dire que tu vois pas, je sais pas, l'Afrique interdire Huawei. Au contraire, d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est quand même... Je garde un problème...
La relation entre la Chine et l'Afrique est particulière, hein, mais...
Oui, absolument. Oui, c'est vrai qu'il y a de ça aussi. Mais dans le même temps, Huawei, ils sont pas rancuniers. Hein. Ils ont quand même lancé la construction d'une usine en Alsace. Là, ça y est, ils vont investir des centaines de millions et embaucher, je sais pas combien, des milliers de personnes. En plus, c'est même pas pour faire du smartphone ou quoi que ce soit. C'est pas un centre de recherche. Ils vont produire des équipements télécoms que, en gros, ils n'auront pas le droit de vendre chez nous. Bon, alors, j'ai envie de dire, c'est probablement une autre forme de diplomatie, et puis aussi, on reste un pays attractif en termes d'investissement industriel, mais enfin, ils sont sympas avec nous, dans l'ensemble. Mmh.
Plutôt gentil. GameStop, on en parlait évidemment avec l'affaire Wall Street Bets, on en a parlé à plusieurs reprises. Si vous vouliez des infos, ils sont redescendus à $90. Leur plus haut, c'était 483. Les autres actions qui avaient été ciblées par Wall Street Bets sont plus ou moins redescendues. Bon, $90, je ne sais pas s'ils sont redescendus encore plus aujourd'hui. C'est clairement beaucoup plus haut que les 20 desquels ils partaient pour GameStop.
Voire même les 10 il y a quelques mois.
Ouais, ça c'était il y a encore plus longtemps, ils étaient même encore plus bas, 3 ou 4. Mais bon, bref, donc ça a l'air de se calmer en tout cas. L'orage semble être passé, à voir si ça aura des conséquences plus tard. Il y a deux articles en particulier que je ne vais pas avoir le temps de traiter dans l'émission, mais qui sont vraiment passionnants. Je vais en dire deux mots, mais si vous voulez les lire, je vous encourage à le faire. Abonnez-vous à la newsletter sur notepatrick.com. J'en parle toutes les semaines, mais à un moment, il faut finir par le faire parce que sinon, vous allez rater les articles à chaque fois et vous dites « Ah merde, j'aurais voulu celui de la semaine dernière ». Bon, bah, vous abonnez, comme ça, c'est réglé. Mais deux articles vraiment intéressants. D'une part, un article sur le monde incroyable des apps de... Qui copie d'autres apps, qui a été un petit peu mis sur le devant de la scène par Costa Elfteriou, j'espère que je lis bien son nom, qui fait une application avec un clavier sur Apple Watch. C'est très spécifique, hein, elle s'appelle FlickType. Mmh. Et il y a des développeurs peu scrupuleux qui ont lancé des applications qui ne font quasiment rien, qui ne marchent pas bien, et... qui ont utilisé le matériel marketing de son application, donc les vidéos, les images, etc., et qui ont donc développé rien du tout sur l'application. Et quand on lance leur application, qui s'appelle, elle, KeyWatch, eh bien, immédiatement, elle vous dit « débloquez-la pour $8 par mois ». Et donc, certains vont débloquer ça et vont payer. Et comme dans le système d'Apple, il est hyper difficile de se désabonner à quelque chose, c'est pas impossible, mais il faut vraiment aller chercher. La plupart des gens oublient. Et ces applications donc frauduleuses font des centaines de milliers de dollars parce qu'ils, en plus, ils utilisent des services qui vont mettre des reviews hyper positives, fausses évidemment, hyper vite sur l'App Store au lancement, et puis ils en remettent de temps en temps. Enfin, c'est un monde terrifiant, et le pauvre développeur de Flick, comment elle s'appelle son application, FlickType, il a mis un coup de projecteur là-dessus. C'est vraiment intéressant et c'est assez effrayant. L'autre sujet qui est hyper intéressant, c'est celui des jeux vidéo. Tu parlais de Twitch tout à l'heure et des suprémacistes. Dans les plateformes de jeux vidéo. Alors, c'est généralement pas les jeux vidéo eux-mêmes, mais les plateformes qu'il y a autour, comme DLive. Alors, Twitch et DLive, d'ailleurs, ont fait le ménage récemment, mais du coup, ils ont été poussés sur d'autres plateformes type Telegram, etc. Mais sur DLive, il y en avait certains qui streamaient du jeu vidéo essentiellement et qui en profitaient. Enfin, ils pouvaient streamer, on pense à une personne en particulier, qui s'appelle Patrick Casey, qui streamait des jeux vidéo pendant des heures. Et de temps en temps, il parlait de ses théories fumeuses et il radicalisait des jeunes qui regardent sur ce type de plateforme. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est pas... Ce que j'aime dans cet article, c'est qu'il n'est pas... Il est factuel, il n'est pas effrayant pour le principe, mais il dit qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Et il y a une cible, évidemment, particulièrement sensible chez les plus jeunes, et ils sont très présents sur ce type de plateforme. Donc, il faut faire super gaffe. Et en plus de ça, c'est vrai que, d'une manière générale, l'industrie du jeu vidéo a historiquement été assez peu efficace pour contrôler ce type de discours. Alors, c'est pas facile à contrôler, on le voit avec...
Ah oui, c'est du live, c'est quand même compliqué, ça dure des heures. Enfin, tu vois, là, il faut mettre un flic derrière chaque stream.
Mais bah, c'est exactement pareil avec les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vraiment un article qui fait un état des lieux intéressant, en particulier en parallèle avec ce qui s'est passé au Capitole, etc. Et un article à lire, quoi, qui sera sur la newsletter. Mais vraiment intéressant. Pardon, je voulais pas t'interrompre, Cédric.
Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que c'est un média qui est très difficile à modérer parce que tu es sur du direct. Hein, c'est pas comme une vidéo YouTube que tu peux dénoncer en disant attendez, là, quand même, c'est problématique ce qu'il y a. Non, mais là, voilà. Surtout que c'est un contenu qui est au milieu d'un autre contenu. Donc, il y a un peu d'obfuscation. Regardez, je suis sur tel jeu, machin. Et au fait, d'ailleurs, n'oubliez pas que Trump aurait dû gagner. Oui, ben, attendez.
Et ce qui est. Ce qui est intéressant également dans l'article, je vous en livre quelques conclusions quand même, c'est qu'ils admettent tout à fait que si on supprime les comptes de ce type de personnages, de ces réseaux publics, eh ben, ils vont aller plus loin dans la clandestinité non plus, mais dans des réseaux qui sont moins faciles à surveiller comme... Telegram ou des réseaux vraiment chiffrés de bout en bout, qui sont là des réseaux très différents. On n'a pas vraiment de vidéos ou assez peu sur ce genre de choses. Mais là, une chose intéressante qu'ils disent dans l'article, c'est vrai, mais c'est quand même important de dénoncer la chose et le fait de les pousser dans les recoins de l'Internet, ça... change quand même l'image qu'ils ont et ça rend les choses moins acceptables, etc. Donc oui, ils vont trouver d'autres vecteurs pour communiquer leurs idées, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. J'ai trouvé ça intéressant. Tous les détails donc sont dans l'article complet.
On revient au débat sur est-ce qu'il fallait fermer les comptes sur Twitter parce que ça pousse les gens vers ailleurs, etc. Moi, je pense à penser que oui, parce qu'à un moment, en plus, tout à coup, quand tu te retrouves, comme tu dis, dans des recoins si particuliers d'Internet, l'endroit d'où tu parles signe déjà, si tu veux, une partie du message, quoi. Exactement. Parleur n'existe plus, mais c'était un bon exemple, tu vois. Le côté « rejoignez-moi sur Parleur », déjà, c'était un message en soi.
Ouais. D'ailleurs, le président de Parleur s'est fait virer. Je ne sais pas si tu as vu, mais les investisseurs qui pourtant ne semblaient pas être hyper hermétiques au message ont dû se dire « bon, ok, maintenant ça suffit
». Ça faisait beaucoup.
Dans ce type de sujet également, des chercheurs du NYU ont fait quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Ils ont intitulé l'idée selon laquelle les réseaux sociaux censurent la droite et l'extrême droite américaine, à vrai dire même la droite américaine tout court, les conservateurs américains, ils disent depuis des mois et des années maintenant que les réseaux sociaux les censurent. Ils ont dit que c'était une certaine forme de désinformation. Et je trouve ça assez intéressant comme labellisation d'une activité, parce que c'est vrai qu'on n'arrivait pas exactement à dire pourquoi c'était pas vrai, pourquoi c'était gênant, pourquoi... Le fait de dire c'est de la désinformation met un terme dessus qui est intéressant, et c'est vrai pour moi, c'est de la désinformation de dire que les voix conservatrices sont plus censurées que d'autres sur les réseaux sociaux, parce qu'on l'a vu à de nombreuses reprises, c'est pas forcément le cas, et c'est simplement de la propagande, quoi. Et donc dire c'est de la désinformation, ça met un bon terme dessus. Oui, vas-y.
Non, non, sur la victimisation. Ça me rappelle, tu sais, Marine Le Pen qui vient à la télé pour dire qu'on l'invite jamais à la télé. mais et là, c'est vrai, on voyait des gens arriver sur Fox News en disant ouais, « je n'ai pas le droit de prendre la parole ». Mec, tu es en direct sur Fox News. ouais, c'était quand même pas très sérieux dans l'ensemble.
Si vous pensiez que la gauche américaine est un petit peu plus au courant du fonctionnement de l'Internet, il faut peut-être revoir vos estimations, puisque le dernier projet de loi de la gauche américaine vise à réformer l'article, la section 230, qui est une section du Digital Millennium Copyright Act, si je ne m'abuse. Je suis peut-être en train de dire une bêtise, mais enfin, c'est la section de loi qui fait que l'Internet peut exister tel qu'il est, avec la liberté pour les réseaux sociaux. Voilà, pour les réseaux sociaux et pour toutes... je pense que vous connaissez la section 230, mais je le répète quand même rapidement. Un éditeur de site web n'est pas responsable de ce que postent les utilisateurs de son site web.
Et c'est en tout cas, tant qu'on ne lui a pas signalé.
Tant qu'on ne lui a pas signalé. Et c'est ce qui fait que les sites web tels qu'ils sont aujourd'hui, avec l'interactivité qu'on leur connaît, peut exister. C'est également ce qui fait que les éditeurs de sites web peuvent avoir des sites où il y a des choses qui ne sont pas acceptables et ne pas être tenus responsables de ces choses pas acceptables. C'est effectivement le revers de la médaille, mais sans ça, ça veut dire qu'il faut tout simplement tout fermer parce que tu es responsable pénalement de tout ce qui est posté sur ton site, que ça soit un réseau social. Et donc, ça changerait dramatiquement la nature de l'Internet, pas que les réseaux sociaux, mais les forums, les commentaires,
tu fermes Facebook, tu fermes tout. Parce qu'évidemment, c'est pas tout à coup, si des gens qui sont des plateformes ouvertes ou des réseaux sociaux sont considérés comme des médias, c'est-à-dire qui ont la responsabilité dès le premier clic des contenus qu'ils hébergent, enfin des contenus qui sont sur leur plateforme, c'est intenable, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça, personne ne peut, tu vois, modérer YouTube en temps réel.
Et c'est exactement ce que propose cet amendement à la loi. En gros, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est encore qu'un amendement, qu'un projet d'amendement. Donc, on en parlera peut-être plus longuement s'il devient un petit peu plus approuvé. Mais en gros, ce qu'il ferait, c'est qu'il supprime l'immunité et il la transforme en défense active, ce qui veut dire qu'il faudrait que pour chaque procès lancé, enfin qu'on pourrait lancer des procès et qu'à chaque fois l'éditeur du site vienne se défendre au tribunal, ce qui est évidemment intenable, surtout pour les petits, pour les grands encore. Ils sont déjà en place, ils ont de l'argent, donc à la limite, ils pourraient peut-être se démerder, mais pour les petits, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a d'autres petites modifications. En gros, cette proposition est tout aussi problématique que les autres qu'on a vues par le passé. Là où j'ai un petit espoir, c'est que, évidemment, il n'est pas dit qu'il ne faut pas revoir la section 230 d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il faudrait la changer un petit peu. Mais il semblerait que les responsables de la gauche américaine soient plus prêts à écouter les gens qui connaissent le fonctionnement du net pour comprendre au moins. Parce que là, vraiment, ils écrivent la loi et ils pensent que ça va avoir l'effet inverse de ce que ça aura littéralement. Je veux dire, ils pensent que ça voudra dire que la désinformation va disparaître. Et ce n'est pas du tout le cas. Bref, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne si c'est confirmé. Et puis, dans le domaine des lois un petit peu WTF, un projet de loi au Nevada, vous savez, c'est Las Vegas, un projet de loi voudrait établir des zones de... alors, comment ils appellent ça ? Je ne me souviens plus du nom.
D'autogestion, on va dire.
Voilà. Des zones d'innovation. Ils appellent ça des zones d'innovation. C'est un démocrate qui est en train d'écrire cette loi. Donc, ce n'est même pas une question de conservateur. Et donc, c'est des zones d'autogestion pour des sociétés qui auraient le droit, dans certaines zones qui doivent faire une certaine taille, avoir un certain type d'activité, etc., qui auraient le droit d'avoir leurs propres administrations, leurs propres écoles, leurs propres tribunaux, leurs propres lois sur les taxes. Enfin, vraiment, c'est donner une zone du comté, enfin, de l'État, et d'en détacher complètement de l'administration de l'État lui-même et de donner à une société entièrement la possibilité de gérer cette zone. Je ne sais pas si c'est une blague, je ne sais pas s'il y a des choses que...
Non, je ne pense pas. C'est sérieux et ça répond d'ailleurs à des choses que certains demandaient. Moi, je me souviens, un jour, j'étais à une conf à Google I.O., la conf développeur de Google, et à la fin, surprise, il y a une image fameuse, hein, Larry Page, donc cofondateur de Google, arrive sur scène. Il n'a pas vraiment un discours préparé, mais alors... L'image, je ne sais pas si c'était planifié comme ça, mais derrière lui, il y a une espèce de globe en temps réel qui tourne. Enfin, ça fait un peu maître du monde. Et voilà, donc il se lance dans des dispositifs, dans un discours assez généraliste sur « c'est super, regardez, vous les développeurs, faites des trucs géniaux, le monde change, etc. » Et d'ailleurs, et à un moment, il dit « mais et d'ailleurs, ce serait peut-être intéressant, je ne sais pas, qu'on nous donne ou qu'on puisse avoir des endroits à nous, des choses où on puisse expérimenter des choses sur la vie, la loi, enfin qu'on ait des espaces de liberté totale. » Alors, ça a un côté, tu vois, très libertarien à l'américaine, tout ça, mais c'est pas nouveau. Hein. Il y a déjà eu des villes privées aux États-Unis, la plus connue d'entre elles.
Il y en avait une au Canada.
Il y en avait surtout une en Floride, qui s'appelait Celebration. Celebration qui appartenait à Disney.
Ah oui, tu veux dire, il y a. Oui, d'accord, je croyais que tu parlais de la tech et de l'Internet, oui.
Non, là, c'est pas de la tech, mais où ils avaient décidé de créer une ville idéale, entre guillemets, bien évidemment, où il y aurait pas de crime, où tout le monde serait gentil. Enfin, c'était très Disney. Hein. Bon, ils s'en sont, je crois, largement désengagés depuis, parce qu'il y a eu plusieurs affaires regrettables. Et puis des problèmes de gouvernance, parce qu'en fait, les gens qui habitaient là-bas se sont aperçus que ils n'étaient pas dans une ville normale, ils ne pouvaient pas élire qui ils voulaient comme maire, enfin, c'était un peu compliqué. Ils étaient plus dans une espèce de grande copro avec un syndic que tu ne pouvais pas dénoncer. Donc, le Nevada peut faire ça, parce que quand même, il faut le dire, pour l'essentiel, c'est un grand désert. Donc, c'est facile. Ça, c'est comme quand Elon Musk dit « Ah oui, au fait, derrière l'usine, on va ouvrir une mine de lithium. » Oui, bah, c'est bon, t'as qu'à creuser, vas-y, t'as toute la place qu'il faut. Donc, ils peuvent le faire, c'est pas inintéressant. Ce qui est intéressant, ça va être de voir qui se saisit de cette opportunité. Bon, je pense que les suspects habituels vont tous... allez, c'est trop tentant, bien évidemment. Et puis, ce qu'ils vont faire avec, parce que peut-être que, de fait, il y a des choses à redéfinir, à imaginer, à expérimenter sur plein de choses, l'économie locale, la démocratie locale, je ne sais pas. La question, c'est ça, c'est si Google fait une ville demain, est-ce que tu as envie d'y habiter ?
C'est marrant parce qu'il y a... Il y a quelques années, tout le monde aurait dit oui. Aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas. Mais ils avaient un projet avec le Canada de ville Google qui, depuis, a été annulé parce qu'ils se disaient... Bon, okay. Disons que l'image des géants de la tech a un petit peu changé ces dernières années. Il y a un projet
au Japon. Je connais plein de gens qui emménageraient tout de suite dans une ville Apple. Hein,
qui sont déjà dans des maisons Apple, peut-être parfois. mais il y a une ville au Japon, une ville Toshiba, je crois. Je crois que c'est Toshiba, je suis plus sûr. Enfin, ils sont en train de... Et pour me faire l'avocat du diable, mais tu l'as fait un petit peu déjà, peut-être qu'effectivement, il serait intéressant de voir au niveau de l'expérience ce que donnerait une ville pensée par les technologistes et peut-être en tirer certains enseignements. Moi, je pense que dans l'ensemble, ça ne serait pas forcément une bonne idée au total, mais peut-être que certaines choses fonctionneraient de manière intéressante. Il faut aussi se méfier quand même de choses qui fonctionnent dans un microcosme d'une ville de 10 ou 15 000 habitants qui sont ensuite inapplicables à une ville plus ambitieuse ou plus grande. Et ensuite, on va dire « Mais regarde, ici, ça marche très bien, alors que regarde, le gouvernement, il fait n'importe quoi pour ci et pour ça. » Ben oui, mais c'est pas la même machine, quoi. Un paquebot n'est pas aussi manœuvrable qu'un petit speedboat, mais disons que dans l'ensemble, c'est quand même une idée qui est étrange aujourd'hui au milieu de la de ce que certains considèrent comme une dystopie technologique des réseaux sociaux. Ce qui là aussi, évidemment, il faut prendre avec des pincettes parce qu'il y a quand même énormément de bonnes choses qui se passent avec la technologie aussi. Mais je ne sais pas, c'est surprenant. C'est encore qu'un projet de loi, peut-être que ça ne sera pas.
C'est intéressant d'imaginer ce qu'une ville déjà peut être quand tu la reconçois en partant de rien et avec une liberté pour le coup, quasi totale. Et tu vois, c'est la différence entre je fais construire ma maison et je rachète une maison ancienne pour la retaper à mon idée, ce qui est toujours plus compliqué parce que tu, dans une ville, par exemple, tu passes sur des couches et des couches de, tu vois, de mutations dont tu n'étais pas comptable à l'époque. Là, tu repars de zéro et tu te dis, voilà, je fais absolument ce que je veux. Et en plus, on imagine que les gens qui feront ça auront les moyens de le faire. Non, c'est intéressant. C'est, je te promets, partout dans le monde, tu as des sociologues qui frétille en ce moment en disant un espace d'expérimentation sociologique, c'est merveilleux.
Écoute, tu es plus positif que je n'aurais pensé et au final, oui, tu m'as un petit peu convaincu. Donc, je vais finir avec le dernier sujet que je voulais évoquer qui était assez intéressant. Le Zoom bombing, vous savez ce que c'est quand quelqu'un débarque sur un Zoom call, sur une conférence Zoom qui n'était pas prévue et fait peut-être l'imbécile. Ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que la plupart des Zoom bombes étaient en fait pas le fait de vulnérabilité de Zoom ou de ce genre de choses, et que en particulier chez les écoliers et les collégiens, c'était du fait de participants normaux à la conférence qui mettaient le lien quelque part avec le mot de passe pour troller la conférence elle-même, et que c'est pour ça que c'est tellement difficile. Évidemment, quand tu as le lien et le mot de passe, bah tu peux arriver dans le Zoom call.
Compliqué.
Ça m'a fait rire parce que tu dis « Ah, mais franchement, ils font n'importe quoi avec le… » Alors oui, Zoom avait des gros problèmes de sécurité, surtout au début de la pandémie. Je ne nie pas ça, mais c'est marrant de se dire qu'en fait, quand tu sais, les profs qui font un call sur Zoom pour faire leur cours et qui s'arrachent les cheveux en se disant « Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour rentrer dans notre sécurité ?» En fait, non, c'est les élèves qui veulent troller, voilà.
Bah, ils ont mis le lien sur Facebook, qu'est-ce que je te dis ?
Exactement. Bon bah écoute, merci beaucoup Cédric, c'était un épisode
c'est toujours un plaisir.
Intéressant. Si les auditeurs en veulent un petit peu plus de Cédric,
on a beaucoup donné déjà aujourd'hui. Alors sur Twitter @Cédric, mais toutes les choses que je publie, que je fais sur lci.fr. Et puis les doigts dans la prise, parce que là il va falloir que je sorte les doigts de la prise et que je fasse quand même un nouvel épisode. On a déjà un retard, c'est pas bien. Je crois qu'on s'y parlera de fait de ces Tesla qui tout à coup pour certains sont plus assez chers. C'est une vraie question.
et beaucoup puis aimé aussi. On peut les acheter avec des bitcoins maintenant, et Tesla a racheté
bientôt,
combien, 1,5 milliard de
ouais,
en bitcoin.
C'est pas grand-chose par rapport à la valorisation totale du Bitcoin,
mais
c'est intéressant. Et ouais, l'idée que tout à coup, tu vas pouvoir payer ta voiture en Bitcoin. Mais à chaque fois, en te posant la question, en disant « Bon, alors là, la voiture, je la paye, je sais pas, un Bitcoin, par exemple, 46 000 $ ok, très bien. Mais peut-être que si j'attends un peu, elle me coûtera plus qu'un demi-Bitcoin. » parce que je rappelle, Bitcoin, c'est pas vraiment une monnaie d'échange, c'est plutôt une monnaie de réserve. Donc c'est intelligent de leur part, parce qu'évidemment, on voit bien que Bitcoin a l'air sur une courbe ascensionnelle, donc c'est une bonne affaire. Bon, si ça redescend, ça en sera une moins bonne.
Moi, j'ai toujours mes Dogecoin quelque part sur un vieux disque dur que j'ai dû reformater. J'en avais 20
000. Non.
Mon pote Saoudi Turquie m'en avait envoyé 20 000. Et suite justement à des tweets d'Elon Musk, les Dogecoin sont passés de 0,5 cents à 8 cents. Tu te rends compte? Avec 20 000,
tu aurais pu gagner 1 600 $.
Tu te rends compte?
Ça va, c'est pas comme ces gens qui cherchent leur disque dur dans des décharges publiques en disant « Non, mais j'avais 40 000 bitcoins
!» Voilà. Bon, on sait jamais, hein, les Dogecoin vont peut-être continuer à monter.
Enfin, je rappelle que Doge, c'est une vraie fausse... Enfin, c'est pas de la fausse monnaie, mais c'est une monnaie qui n'a aucune vertu, aucun usage, aucun projet, aucun rien. Enfin, it's a joke.
Une joke à 1000 $. Donc, merci Cédric, @Cédric sur Twitter. Pour ma part, je suis NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas que sur notepatrick.com, vous pouvez trouver le lien pour vous abonner à la newsletter. Et que vous pouvez aussi vous abonner à Super Laser Punch, le podcast où on fait les débriefs toutes les semaines des séries Marvel en ce moment, et c'est Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Je peux enfin libérer mon amour du MCU chaque semaine, puisqu'il y a de quoi faire. Super Laser Punch dans toutes les apps de podcast, pas encore sur Spotify, je suis en train d'y travailler, mais partout ailleurs, Super Laser Punch. et bien sûr patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. On parlait tout à l'heure de cette relation un petit peu particulière que nous avons tous ensemble, et elle est encore plus particulière avec les gens qui soutiennent sur patreon.com/rdvtech. Qui a dit qu'on ne pouvait pas acheter l'amour? En tout cas, l'amour de Patrick, c'est clairement prouvé. Mais non, j'aime tout le monde, moi, de toute façon. Mais c'est vrai que le fait que je puisse faire de tout ça mon travail est quand même un petit peu particulier. En tout cas, si vous appréciez l'émission, c'est ça l'important. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et le lien est dans les notes de l'émission. Je vous remercie du fond du cœur pour ceux qui soutiennent. Je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur de le faire. C'est tout pour cette semaine. On se donne rendez-vous dans une semaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao à tous.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's GRAMMARLY.com/podcast. Easier said, done.